Bonsoir et merci infiniment d'être présent ce soir. Nous accueillons un auteur qui nous tient à cœur, Jo Menno, publié par les éditions Agulo, édition bordelaise s'il en est. Jo Menno publie pour cette rentrée son troisième roman en France. Après Le blues de la harpie et Prodigé miracle, il revient avec un roman un peu plus différent, La crête des damnés. Si les deux premiers ont été reconnus par le public, par les lecteurs, comme étant très poétiques, très beaux, cette fois-ci, on est sur un coming of age, un roman qui parle de l'adolescence dans les années 90, un roman plein de musique, plein de rock, plein de punk, un roman tendre et un roman qui ne peut être qu'un coup de cœur pour tous les gens qui le liraient.
Merci.
Merci beaucoup, Jo Menno.
Ah, merci beaucoup.
Donc, pour commencer, quelques mots sur votre parcours, puisque votre propre trajectoire se retrouve en filigrane dans le texte de votre roman.
Just a few words to start with regarding your career, because your own trajectory somehow can be read between the lines in the novel.
Oh, okay, I appreciate that. First, I just wanted to say thank you so much for coming. Bordeaux's a lovely city, and I understand there's many things happening, so thank you for spending some time with us this evening. I appreciate it.
Merci à vous tous donc d'être venus. J'apprécie beaucoup d'être là.
Like Brian, the narrator in the book, I grew up on the south side of Chicago in a neighborhood that felt like a very small town.
Comme Brian, le héros narrateur de ce roman, j'ai grandi dans le South Side de Chicago, le quartier du sud de Chicago.
And I'm sure in cities like Bordeaux, there are neighborhoods where you feel like you know everyone who lives on your block and your street, and there's a sense of uniformity. In my neighborhood, everyone worked in construction or they worked for the Chicago Police or Chicago Fire Department.
Alors, moi, dans le quartier où je vivais, vous devez connaître ça également chez vous. Il y avait un sentiment, effectivement, de connaître un petit peu tout le monde, un sentiment d'uniformité. La plupart des gens travaillaient soit dans le bâtiment, soit étaient pompiers ou bien étaient agents de police.
And so I was very lucky at the age of 15 or 16 to discover music, to discover the power of music, and specifically punk music that got me to change the way I thought about my neighborhood, got me to think about politics and class and race in the neighborhood where I lived.
Et quand j'ai eu environ 15 ans, entre 15 et 16 ans, j'ai eu la chance de découvrir la musique punk et le pouvoir de cette musique qui m'a permis en fait de changer d'opinion, qui a modifié ma perspective sur beaucoup de choses, en particulier sur la société et sur la politique.
So I discovered music and that slowly led me to writing. I began to write record reviews for fanzines and began to go to shows and do interviews with different bands, and from there I began to write short stories and then ultimately novels.
Et donc cette découverte de la musique m'a progressivement amené à écrire des articles, des critiques pour des disques, des comptes rendus dans des fanzines. Je me suis rendue à beaucoup de concerts, j'ai fait des interviews de groupes. Et cette écriture-là, journalistique, m'a aussi conduit à écrire des nouvelles.
Oui.
Pour rester encore un tout petit peu sur le contexte du livre, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de Chicago, et notamment le Chicago des années 90 ? C'est un peu comme un personnage secondaire dans le roman, parce que sans forcément dire les choses clairement, il y a beaucoup de suggestions et beaucoup de tensions, et on sent notamment les tensions raciales qui persistent à Chicago.
Talking about the context surrounding the book, could you tell us a bit more about Chicago, and especially the Chicago of the 90s? Because the city in the book is almost like a secondary character, another character.
Merci.
And there are a lot of things that are suggested about racial tensions in particular.
Merci. Unfortunately, the Chicago of 1990 is not very different. it's not altogether different from the Chicago of 2019.
Malheureusement, le Chicago de ces années-là, des années 80-90, n'a pas tellement changé aujourd'hui.
Chicago is the third largest city in the United States, and the way that the city was built was purposefully segregated.
C'est la troisième ville la plus grande des États-Unis, et la, à sa construction, en fait, sa construction reflète le phénomène de la ségrégation.
And so my family, my great grandfather came from Bosnia. Another grandfather came from Italy, another one from Poland, and they all moved on the south side of the city where most of the immigrants lived. Many of them worked in factories during the 1940s and 1950s.
Mes arrière-grands-parents venaient de Bosnie, de Pologne. Ils ont tous émigré dans cette partie-là des États-Unis et de la ville. La plupart travaillaient dans des usines dans les années 40 et 50.
And then in the 1940s and 50s, there was an influx of African-American families from the South in America, and there was an immediate tension. In the United States, we refer to this as white flight, when many white families fled to the suburbs.
Et puis à partir des années 40-50, justement, on a vu arriver un grand nombre de gens africains-américains, de noirs africains-américains qui venaient du sud des États-Unis, et ça a provoqué une réaction immédiate de fuite d'une partie de la population blanche.
So unlike many other large American cities, the city of Chicago was allowed to remain segregated. There was space, if unlike in New York or parts of Los Angeles where people are forced to integrate, in Chicago, people chose to remain within their own ethnic communities.
Comme beaucoup de grandes villes, Chicago finalement a pu rester d'une certaine manière a pu rester une ville de ségrégation. I'm not sure I got to the final part of your...
that these individual ethnic groups decided to stay within their own neighborhoods.
Okay. Et oui, et donc, comme la ville était grande, du coup, ces populations raciales ont pu rester parce qu'il y avait de la place au sein de leur communauté, donc sans devoir partir.
And so, in order to protect those neighborhoods, young people, 15, 16 years old, they were in gangs, you know, what we would call now white power or nationalists or Nazis, right? And so that was the neighborhood that I grew up in.
Et donc, pour défendre les quartiers blancs, des gangs de gamins d'environ 16 ans ont commencé à se former, donc des suprémacistes blancs, des néo-nazis.
And it's incredible now, 30 years later, to see in England and France and the United States and Hungary this return to this same mentality. It's unreal. It is unreal to be able to see some of these same, the same anger, the same fear that's been introduced into the United States again.
Et donc, 30 ans plus tard, que ce soit en Angleterre, en France, en Hongrie, aux États-Unis, j'ajouterai en Allemagne récemment,
oui.
D'observer le retour de ce type de mentalité, pour moi, c'est complètement irréel de voir revenir cette même colère, cette même peur, refaire son entrée aux États-Unis, enfin refaire surface aux États-Unis aussi.
So it was through the music, through listening to bands like The Clash, which I first heard when I was 15 or 16. I had never heard music that got me to think about history or politics, or got me to question what was going on in my neighborhood.
Et donc c'est en écoutant de la musique, en particulier celle des Clash, que je me suis rendu compte que voilà, la musique pouvait me forcer, enfin en tout cas, vous pouvez me faire penser à des choses auxquelles je ne pensais pas auparavant, comme justement à la question de la race, de la justice sociale.
Je vais juste rebondir sur une toute petite chose parce qu'elle est importante avant d'arriver sur les personnages. Dans ce que vous venez de dire à l'instant, on retrouve dans le roman, et c'est le discours de Brian, le personnage principal, qui parle de cette reproduction du suprémacisme blanc
qui se fait dans les familles, où les jeunes ados reprennent les discours de leurs parents. Et tout cela devient tellement banal que même Gretchen, elle est amoureuse d'un suprémaciste blanc, alors que Gretchen, c'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus sain et de plus attachant. Et c'est compliqué de comprendre ce sentiment et cette manière de tomber amoureux de quelqu'un qui est infréquentable, en fait.
Before we start talking about the characters, I would like to go back to something you said regarding this return of white supremacists. And I was wondering, I was thinking about Brian's speech about how white supremacists and their discourse, their theories, tend to be reproduced from within the family, and how it can also influence people, innocent people like Gretchen, whom you might think would not agree with such ideas.
It's a fascinating question. I don't necessarily have an answer. I'll be honest. I am. I'm very confused. I feel very confused at the moment. I have this belief that by 2015, 2020, so many of those attitudes would have died with an older generation. And what we see happening in the United States right now are young people, people in 19, 20, who are committing these different events. It's really difficult for me to comprehend. I have to believe part of it, of course, is your family or the neighborhood you might live in. But it's not something that's easy to answer. If anything, it feels like it's someone, like the characters in the book, who are searching for some identity, some meaning to give their lives a shape.
C'est une question complexe et fascinante à la fois. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser, en fait. Je pensais, en fait, que aux alentours de 2015, cette génération de racistes et de suprémacistes blancs serait terminée, enfin, qu'elle aurait été remplacée par des nouvelles générations beaucoup moins raciste. Et malheureusement, je ne peux qu'observer qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 19-20 ans qui sont responsables de crimes et d'attaques. Et ça me désole, mais je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Si ce n'est que, comme dans mon livre, il y a des personnages, il y a des gens qui sont en quête d'une identité, qui essayent de trouver un sens à leur vie, et peut-être que c'est ce qui explique en partie ces comportements.
Pardon, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a uniquement un racisme des suprémacistes blancs? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, notamment les Mexicains, qui par bande, ce phénomène de communautarisme qui est exacerbé aux États-Unis?
So this is about the white supremacists.
Not only, but there are also Mexican bands or gangs. That it's not only about. I mean, there are the tensions, the racial tensions are all over the place.
That's true. That's true. I think thinking about the question, there's something dangerous about, especially young men. 16, 17, 18, 19, who are searching for a place where they feel power. And whether it's in gangs, whether it's in some online white supremacist group, if you don't have an identity and if you don't have that support from your family, there's many different ways you can make terrible decisions, right? And we see, and now we're starting to see the consequences, the results of that. It's so strange to me, because I felt like there were lessons from 30 years ago that, at least in the United States, we would have learned by now. But it seems like we've forgotten many of those lessons. The idea that we do need communities, you do need a family to help support you, to help make those choices.
C'est vrai. Mais il y a ce danger que représentent ces jeunes de 16, 17, 18 ans, 19 ans, qui cherchent une place... pour eux et qui, où ils puissent éprouver une forme de puissance, d'empowerment.
Oui.
qu'ils le trouvent dans le jeu ou bien dans l'appartenance à ces groupes. Et quand on n'a pas ce soutien au sein de la famille qui permet justement d'asseoir son identité, eh bien, voilà, on va le chercher dans d'autres filiations. Et ce qui est étrange pour moi, ce que je peine à comprendre, c'est que les leçons que nous avons tirées normalement, enfin que nous avions tirées il y a une trentaine d'années, c'est comme si elles avaient été désapprises, elles avaient été oubliées. Et donc, on a besoin, effectivement, de communautés, mais ces communautés-là peuvent aussi participer à ce genre de tension.
Pour revenir au personnage, donc vous l'aurez compris, on est devant Brian et Gretchen, très très bonnes amies, et un peu plus que ça de la part de Brian, parce qu'il se rend compte qu'en fait il est tombé amoureux de sa meilleure amie Gretchen. Et le troisième personnage encore, c'est la musique. Parce que, comme je vous disais, tout le roman est rythmé par la musique. Et ceux parmi vous qui ont connu ces années-là, vous vous souvenez comment on offrir aux amis, ça pourrait être une déclaration, ça pourrait être plein de choses. C'est un peu un roman générationnel. Et je voudrais savoir surtout, parce que vous avez été journaliste, ou vous l'êtes toujours, journaliste musical.
Oui.
Comment vous expliquez l'importance de la musique dans la construction identitaire des jeunes dans les décennies précédentes et le fait qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui, la musique n'a plus la même importance.
Oui. Okay, so to go back to the characters, there's Brian, of course, the narrator, there's Gretchen. His best friend, female friend, it's more than a friend, at least for him, mm-hmm. in love with her. And there's this third character, music, because the whole novel is structured by music, and especially those tapes, those mixtapes that the characters, Brian and Gretchen, keep recording. And if you were a teenager during those years, you surely remember how we all recorded those tapes just to tell someone that we were in love with them, or to say something else. So this is a novel that really speaks to the people from that generation. And as a music journalist, I don't know if you're still... yes?
Oui.
Okay. A music journalist, I was wondering if you could explain to us the influence music played or had on people at the time, because it seems to me that there's a kind of a change occurring nowadays. The music is no longer that influential, or it does not influence our lives the way it did.
Merci. I remember that feeling of being 15 or 16 and having to take a bus and then another bus to go buy a record. And oftentimes you would get to the record store and the record you were searching for just wasn't there. It wasn't there. And there was no way to get it. And so you would go through the stacks of records and find something that seemed just as interesting.
Je me souviens de cette impression, de cette sensation d'avoir 15 ans ou 16 ans à l'époque. Je prenais un bus, puis je devais prendre un deuxième bus pour me rendre dans une boutique de disques, un magasin de disques. Et arrivé là-bas, je m'apercevais que le disque était introuvable, qu'il ne l'avait pas. Et donc, il n'y avait aucun moyen, en fait, de l'obtenir. Et du coup, je me rabattais sur d'autres choix. Je consultais les piles de disques et j'essayais de trouver quelque chose d'aussi intéressant.
And I remember just going through the record albums to find one that seemed interesting. You would bring it home, get back on the bus, take another bus, go to your room, turn the lights down and lay in bed and listen. And I would listen to the whole record. And that was this rule that I had, almost a ritual, to listen to the whole record then do you turn it over and listen to the other side? Mm-hmm.
Et donc, je ramenais ces albums à la maison. Je devais reprendre le premier bus, et puis ensuite un second. Je rentrais à la maison, et là, je me mettais dans ma chambre, j'éteignais la lumière, je m'allongeais sur mon lit, et j'écoutais le disque dans son intégralité. C'était presque un principe chez moi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas écouter simplement une chanson, mais j'écoutais la face B dans son intégralité avant de la retourner et d'écouter la face B.
Oui, oui, and I remember... Upstairs, my parents might be fighting, or it might feel like the end of the world. Literally, the map of the world at that moment was being redrawn. The Soviet Union had dissolved. It felt like the whole world was changing. And the one thing that gave me a sense of stability or comfort was that record spinning around.
Je me souviens, j'étais à l'étage, je me souviens que j'entendais mes parents qui se disputaient à l'étage, et c'était un peu comme la fin du monde, et d'ailleurs c'était littéralement la fin du monde, enfin, la carte du monde était redessinée à l'époque avec la chute de l'Union soviétique, le monde dans son entier était en train de changer, et la seule impression de stabilité que j'avais, c'était celle justement de ce disque qui tournait.
Oui, and so I remember those trips. Riding the bus alone, going to the record store, it became almost like I grew up Catholic, so it was like going to church or a kind of pilgrimage where you would go and you would do this thing alone. It was kind of an act of independence, and it became kind of sacred to go and find these records because it was the one thing that felt like it saved my life in those moments. Mm-hmm.
Et donc je me souviens vraiment avec beaucoup d'émotion de ces voyages jusqu'au magasin de disques. J'ai été élevée dans la religion catholique et pour moi ça ressemblait presque à un pèlerinage en fait. Mais c'était plus que ça, c'était aussi une manière de développer de manière active mon indépendance. C'était aussi quelque chose de presque de sacré d'aller comme ça en quête de ces disques.
And I remember that feeling of someone making a tape for you, because at that time you had such a difficulty expressing what you thought or what you felt, and there was something about putting another person's words, another person's song, and the selection and which song went where that told this other person everything you felt about the world. Mm.
Et je me souviens des gens qui vous fabriquaient, enfin qui réalisaient ces cassettes pour vous et qu'on réalisait pour eux, parce que à l'époque, à l'âge qu'on avait, c'était tellement difficile d'exprimer avec des mots ce qu'on ressentait, et donc le disque faisait ça pour nous.
So I don't have any scientific evidence, but I still believe that music and the way it enters our body is very different than language and other kinds of meaning. It goes past your reason, it goes past your intellect, and it touches you in a much more emotional place. And I just recognize that even as a writer, there's very little I can do that can affect someone in the way that music does.
Alors je ne suis pas un scientifique et je n'ai aucune preuve scientifique qui aille dans ce sens, mais pour moi, la musique, la manière dont la musique pénètre dans votre corps et dont elle vous affecte, elle est totalement différente du langage verbal ou des autres manières de signifier. La musique a cette façon de toucher quelque chose chez vous de très émotionnel. Qui moi m'a beaucoup influencé aussi en tant qu'écrivain.
Oui.
Et du coup, le fait qu'aujourd'hui l'importance de la musique n'est plus la même qu'avant.
Aujourd'hui, oui. Do I still listen to music or
no?
No.
Do you think that music people do not relate to music the way we did?
Oh,
today.
I was in Poe. a few days ago for the festival.
Po or Poland?
Oui? Po?
Po. Po. Okay.
Yeah, a few days ago. Oui. Je suis désolé. And I met a young man who was a volunteer. He was 16 or 17, who lived in Po. And I asked him, what are some French hip-hop groups that he was interested in? He wrote down a list for me. And he was so considerate. He was so thoughtful. I think he realized, like, this might be my only chance, right? Like, maybe this is my only opportunity to hear French hip-hop. And so he really thought it out. And I could tell how much it meant to him. And so I had the chance to listen to a couple of the songs that he recommended. So I would disagree. I feel like, especially at that age, 16 or 17, it may be the only thing that feels like it makes sense or gives you a window to a world outside of your neighborhood or certainly outside of your own house.
J'étais à Pau il y a quelque temps et j'ai rencontré ce jeune homme.
What was he doing?
He was a volunteer at this festival.
Ah, okay, voilà, qui était... voilà. mince. Et qui, à qui j'ai demandé ce qu'il écoutait oui. comme musique et qui m'a dressé une liste de groupes de hip-hop français. Et il a vraiment mis tout son cœur, il s'est vraiment beaucoup appliqué et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai vu qu'en fait, pour lui, c'était très important, ça avait une signification pour lui. C'était, et je me suis... Bon. Probablement, effectivement, c'était ma seule chance de découvrir oui. le hip-hop français. Donc, il a fait très bien le travail. Donc, je ne crois pas, en fait, que vous ayez raison. Je pense qu'à cet âge-là, la musique joue autant ce rôle, a toujours autant d'impact
oui,
à l'époque.
If it's anyone's fault, I feel like it's my fault. A wife and I have children, and I don't spend an hour laying on the floor listening to records. I just don't do that anymore. And maybe I should. Maybe I need to do that because I recognize how critical, how powerful it is to have an hour where you open yourself up to the world. I just don't do that anymore, you know, and I think I can see how powerful, I remember how powerful. I'll add something if that's okay.
C'est probablement ma faute, mais c'est vrai que je ne passe plus comme auparavant une heure à écouter de la musique allongée par terre et c'est vraiment dommage parce que je sais très bien que la musique a ce pouvoir, cette puissance hein, qui vous permet de vous ouvrir au monde, mais je ne le fais plus. J'ai une femme, des enfants, je ne prends plus le temps de le faire, je le regrette.
Right after the 2016 election in the United States, I stopped reading newspapers. I didn't want to check my phone to see what the news was, at least for a few months. And I went back to those records. I went back to The Clash. I went back to the Dead Kennedy. I went back to those bands that I listened to when I was 15 or 16. It reminded me that at least once before it felt like the world was ending, and I found my way out of that. And so it reminded me that this happens sometimes. It gave me a sense of hope.
Je me souviens lors de l'élection de Donald Trump.
Oui, oui.
to name him. que j'ai arrêté, en fait, de regarder mes messages sur mon téléphone, ou d'écouter mes messages. J'ai arrêté de lire des journaux et je me suis remis à écouter de la musique, à réécouter des groupes que j'écoutais quand j'étais plus jeune, comme les Dead Kennedys par exemple, et ça m'a rappelé ce moment où justement j'avais l'impression que c'était la fin du monde, et c'était effectivement la fin du monde, et c'est ce qui m'a permis une fois de plus de m'en sortir finalement.
Oui.
Je vais rebondir sur une chose que vous venez de dire en parlant de la musique, quand vous étiez jeune et que vous écoutiez la musique dans votre chambre et vous entendiez les parents se disputer, par exemple, à l'étage. Et y a le sujet de la famille est abordé dans La Crête des damnés avec une délicatesse extrême, tout en laissant apercevoir la détresse qui est quand même qui est importante. et chez Gretchen et chez Brian, même si ce sont deux situations familiales différentes. Mm.
You've mentioned your listening or hearing, overhearing your parents arguing upstairs while you were listening to records in your room. This leads me to the subject of family, family in your novel, which is a subject that you tackle very tactfully, very gracefully, delicately. And this is something that, of course, affects the two main characters, Brian and Gretchen. But you do it in a way that is graceful, but that still lets us see through the despair and the misery. Mm.
So Brian, his parents, at the beginning of the book, he recognizes that they're slowly drifting apart. And then ultimately, by the end of the book, they get divorced.
Oui, au début du livre, Brian s'aperçoit que ses parents sont en train de s'éloigner, et puis à la fin du livre, ils sont divorcés.
I remember a moment with my own father, and they began sleeping in separate rooms, and it was such a strange, but quiet. It was done in silence. There was no announcement made. It just happened. I remember seeing my father sleeping on the couch and the kind of strangeness of that. I use that image in the book. In the book, Brian sees his father sleeping and he has his glasses on and he removes the glasses from his father so he doesn't, you know, drop them as he's sleeping.
Oui, moi, quand je me souviens du moment où mes parents justement se séparaient, et en particulier de ce jour où je suis tombée sur mon père qui donc dormait dans une pièce séparée de ma mère, et il faisait chambre à part sans l'avoir annoncé auparavant. Ça avait été fait de manière très discrète, dans le silence. Et donc j'étais tombée sur mon père qui était allongé sur le canapé et qui avait oublié d'enlever ses lunettes. Et j'avais ressenti ce moment, cette vision, comme quelque chose de très surnaturel presque. Et j'avais retiré délicatement ses lunettes pour pas qu'il ne les écrase.
Oui.
Et donc j'ai repris ça dans le livre.
Oui. And Gretchen, her mother has passed away, and she's feeling that absence very strongly in her life. And she shows Brian one afternoon. She takes him into her parents' bedroom and just shows him the bed where her father sleeps alone now. And he can see that. Her father still only sleeps on one side of the bed. He hasn't gotten used to the idea of having the bed to himself.
Et dans le livre, il y a aussi ce moment où Gretchen, qui elle-même a perdu sa mère, qui est morte d'un cancer, et qui souffre beaucoup de son absence, et qui un jour va montrer à Brian la chambre à coucher de ses parents. Et elle désigne le lit conjugal où son père continue de dormir, mais tout seul désormais. Et Brian se rend compte qu'il y a un côté du lit qui est froissé, c'est celui que continue d'occuper le père, et l'autre, évidemment, qui n'est plus occupé par la mère décédée.
And so both of those parents, all those parents are, they're really felt most by their absences. And that's how I felt growing up in the 80s and 90s. My parents were divorced, and it just started happening in the United States where more and more, it was more and more frequent that parents were divorced. And we were suddenly on our own at 15 or 16, trying to make decisions we were just not ready. We were just not ready to make.
Pour ces deux personnages, en fait, les parents existent surtout par leur absence. Et c'est exactement ce que moi, j'ai ressenti à l'époque, quand j'avais leur âge. C'est quelque chose, la séparation des parents, c'est quelque chose qui était de plus en plus fréquent, de plus en plus de parents divorcés. Et donc, les gosses se retrouvaient un peu seuls et livrés à eux-mêmes en devant prendre des décisions qu'ils n'étaient pas prêts à prendre.
On avait commencé une petite discussion tout à l'heure que je me permettrai de reconduire ici par rapport à Gretchen. Vous l'aurez compris, c'est un peu mon personnage de cœur. Ah, et je trouvais, peut-être à tort, qu'il y avait plus de tendresse dans le roman pour Gretchen. En tout cas, c'est celle qui a le plus de conscience politique. C'est celle qui paraît la plus mature et en même temps c'est celle dans la souffrance qu'on commence par deviner et qu'on voit de plus en plus clairement au fur et à mesure qu'on avance dans le roman. C'est comme si cette souffrance là la rendait plus forte.
I'd like to go back to Gretchen. Okay. Because she's my fetish character.
Right.
She's my favorite. And it seems to me that the way you write about her is more tenderful. I mean, and also because she is perhaps more politically conscious than the rest of the characters. She's the most mature, but at the same time, she's also the one who suffers the most. But this suffering makes her strong.
I knew those people. Those were my friends, you know, growing up and as a teenager and certainly in my 20s, who were often complicated, who wanted two opposing things, who wanted to be political, but then ended up dating a skinhead, you know? And so how do you negotiate? How do you justify those two different things? And so for this book, I wanted the characters to have, especially Gretchen, I wanted the characters to have that complexity.
En fait, ces gens-là que je décris dans mon livre, je les ai connus. C'était des gens que je fréquentais quand j'étais ado et puis un peu plus tard aussi quand j'avais une vingtaine d'années. C'était des gens qui étaient dans l'opposition, qui avaient des personnalités complexes, qui avaient une conscience politique et qui en même temps pouvaient sortir avec des skinheads. Oui. Et donc, c'était compliqué pour eux de naviguer entre tous ces désirs et toutes ces affiliations. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu écrire, que j'ai mis en scène ce personnage de Gretchen, parce qu'elle représente cette contradiction.
And I think one of the things I'm most proud of, even many years after finishing the book, is that character. I don't see that character in films, or I don't see that character on television shows or in other books. The idea that you can be this tough, complicated young woman who makes mistakes. We oftentimes, at least in the U.S., we have this idea that this female character has to be tough, never cries, and never makes a mistake. And I think what's interesting about all the characters in the book is how often they make mistakes, and it's through those mistakes, if nothing else, that they learn how to figure out who they are.
En fait, je suis très fière de ce personnage, y compris après des années après l'avoir écrit. Ce personnage, il n'existe pas au cinéma, on ne le voit pas non plus à la télévision. Généralement, les femmes qui sont montrées dans les films ou dans les séries, elles doivent être fortes. Elles ne commettent jamais aucune erreur, et on sait très bien que c'est en commettant des erreurs justement qu'on apprend et qu'on devient fort. Donc, ils sont pas du tout réalistes.
Oui.
Depuis la sortie du roman aux États-Unis, on a souvent comparé Brian à Holden Caulfield.
Ah oui.
Je voulais savoir si pour vous il y a un autre personnage dans la littérature qui serait peut-être plus proche de Brian que Holden Caulfield.
Oui.
The book was released in the U.S., Brian has often been compared to Holden Caulfield, and I was wondering whether there might be another character to whom Brian would be closer somehow.
I appreciate the comparison. I, you know, when I was 15 or 16 and read Catcher in the Rye, it had a great impact on me. But I think of Brian and his relationship with Gretchen in the Chicago of the 1990s as a very different place than the world in which J.D. Salinger describes.
Écoutez, je suis très, très heureux de cette comparaison. J'ai adoré le livre. Je l'ai lu entre 14 et 16 ans. C'est un livre qui a eu beaucoup d'impact sur moi. Mais malgré tout, je pense que la relation de Brian et de Gretchen et l'environnement dans lequel ils évoluent à Chicago est très J.D. Salinger.
In Catcher in the Rye, Holden Caulfield is dealing with having a mental breakdown. In the book, he's speaking to a psychiatrist, and it's a conversation about this breakdown that he's had. And in the 1990s, on the south side of Chicago, you would not have been allowed to speak so openly, so emotionally about the feelings that you had in that way. And so, in some ways, I think those two stories are almost opposites or inversions of each other.
Mm-hmm. En même temps, dans La Trappe-Cœur, le personnage souffre d'une dépression nerveuse et on comprend au fur et à mesure, surtout à la fin, qu'il s'agit d'une conversation avec son psychiatre ou son psychanalyste. Or, dans les années 1990, enfin, dans les années 90, pardon, du côté des quartiers sud de Chicago, on n'était pas autorisé à parler de manière aussi ouverte et aussi émotionnelle de ses propres sentiments. Donc, pour moi, les deux livres sont assez opposés de ce point de vue-là.
Oui, so I think the closest comparison, there's a Midwestern author. And he has a book called Winesburg, Ohio. It's one of the first modernist American novels. And it's about a man who kind of wanders around his small town. And I think about this character's name is George, as being similar to Brian, a character who's out wandering around searching and interacts with different people in his town and learns something about himself that way.
What's the title of the
show? It's called Winesburg, Ohio.
Winesburg,
yes.
Okay. Heard of it. Never read it. Okay. La comparaison la plus proche qui me vient en tête, ce serait avec ce roman d'un écrivain du Midwest qui s'appelle Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio. Et dont le personnage George déambule dans sa petite ville et il est tout le temps dehors en quête d'aventures, de rencontres. Il interagit avec beaucoup de personnes différentes.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Il faudra qu'on regarde voir s'il a été traduit. Je ne sais pas.
Probablement.
Oui.
Probably. It's probably been translated. In
yes, French, yes. Yeah. I'm sure if yeah. it's anywhere in the world, it's upstairs.
Upstairs.
There's a good chance.
Pour finir, à qui vous conseillerez ce roman, vous? C'est quoi le lecteur idéal?
Okay. To conclude, who would you advise to read the book? What would be the ideal reader for this book?
I'm going to look around the room.
I think
it looks like most of us who grew up in the 70s and 80s and recall that moment that seemed like there was such momentous change occurring in the world, and how I was trying to explain to my daughter the other day the idea of MTV, just the idea of it, that there was a channel where they played music and you would sit in front of the television and watch, yeah, you would record it. And how powerful, just how incredibly powerful that felt. And so maybe you have a recollection or you remember that. Or maybe you, like me, you feel like you've forgotten that and need to give yourself a chance to remember.
Mon lecteur idéal, je ne sais pas, pour quelqu'un qui serait né dans les années 70 ou 80, comme moi, qui a traversé cette période de changement historique, ça parlera sans doute. J'ai essayé l'autre jour d'expliquer à ma fille le concept d'MTV.
Oui.
Et cette idée d'une chaîne télévisée qui passe de la musique en permanence, des clips, et c'était énorme à l'époque pour nous. Et elle avait du mal à comprendre, évidemment. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui se souviennent de cette époque ou qui, comme moi, ont le sentiment qu'ils ont un peu oublié, qu'ils auraient bien besoin d'une petite piqûre de rappel.
Oui.
Merci beaucoup, beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Merci, Joe Menno.
Ah, merci.